Chapitre 40. Crassus se remit en route. Il semblait frappé d'aveuglement. Les chefs eux-mêmes partageaient sa confiance. Seul parmi tous, le tribun Cassius avait le pressentiment de la trahison. Lui, à tout moment, suppliait Crassus de s'arrêter et de retourner en arrière, et quand il voyait celui-ci s'entêter à s'enfoncer toujours plus avant dans ce désert de sable, il allait à Ariamnès et l'apostrophait. « Oh, traître et pervers parmi les hommes !» lui disait-il. « Quel mauvais génie t'a conduit vers nous ? Quel filtre magique, quel breuvage maudit as-tu donc donné au proconsul qu'il ait ainsi perdu la raison et nous fasse traverser des solitudes telles que nous semblons marcher sous la conduite d'un chef de brigand nomade et non sous celle d'un impérateur romain ?» Et le traître alors, tombant aux pieds de Cassius, lui jurait qu'il était dans le bon et droit chemin, le suppliait de prendre encore patience quelque temps et lui affirmait que dès le lendemain, l'aspect du pays changerait. Et l'on reprenait courage et l'on allait encore plus avant et la fatigue et la soif des soldats augmentaient à ce point que les uns tombaient morts comme frappés de la foudre et que les autres devenaient fous. Puis, quand l'arabe s'était tiré des mains de Cassius, il courait le long des files de soldats romains, les raillant, et quand ceux-ci se lamentent, demandant de l'eau ou tout au moins de l'ombre, « Eh, vous autres, disait-il, croyez-vous donc voyager encore dans les plaines de la Campanie pour désirer ainsi des fontaines et des bocages, pourquoi pas aussi des bains et des hôtelleries? Vous oubliez donc où vous êtes et que vous traversez les frontières des Arabes et des Assyriens ?» Et quand les soldats entendaient cet homme leur parler ainsi, avec son mauvais latin et son accent guttural, quand ils le voyaient, lui, l'enfant du désert, insensible au soleil, à la fatigue, à la soif, caracolant avec son cheval dans un tourbillon de sable et réfléchissant sur les écailles de sa cuirasse les feux du jour, il leur semblait que c'était quelque démon sorti de l'enfer qui les menait à leur perte, sans qu'ils eussent, le voulussent-ils, la puissance d'y échapper. Puis, un matin, au moment du départ, on le chercha, on l'appela vainement. Il avait disparu. Ce jour même, Crassus sortit de sa tente, non pas vêtu de pourpre, comme c'était la coutume des généraux romains, mais vêtu de noir. Dans l'obscurité, il s'était trompé d'habit. Dès qu'il s'aperçut de sa méprise, il rentra. Mais beaucoup avaient déjà eu le temps de le voir, et le bruit de cette apparition funèbre se répandit dans l'armée comme un présage néfaste. On demandait à grands cris Ariamnès. Cet homme que l'on maudissait quand il était là, disparu, manquait à tout le monde. Il semblait qu'il fût le seul qui, ayant amené les Romains dans ce péril, pût les en tirer. Crassus, pour assurer ses soldats, annonça que le départ d'Ariamnès lui était connu et que, s'il était parti, c'était de concert avec lui et pour faire tomber les Parthes dans une embuscade. Il donna l'ordre du départ. Mais lorsqu'il fallut se mettre en marche, quoique les enseignes fussent fichées dans un sable mouvant, on eut toute la peine du monde à les tirer de terre. Crassus accourut, rit des craintes des soldats, et arracha lui-même les hampes du sol, et forçant l'infanterie de suivre au pas de course la cavalerie, afin de rejoindre l'avant-garde qui était partie dès le point du jour. Mais tout à coup, on vit revenir cette avant-garde, ou plutôt les débris de cette avant-garde, dans un effroyable désordre. Elle avait été attaquée par l'ennemi et avait perdu les trois quarts de ses hommes. L'ennemi, disaient les fuyards, venait derrière eux et plein de confiance. L'alarme fut générale. Cet ennemi, que l'on avait si souvent appelé, c'était, à la suite de tous les événements qui s'étaient passés, avec terreur qu'on le rencontrait. Crassus, hors de lui, rangea en toute hâte son armée en bataille. Cédant au conseil de Cassius, ce fut d'abord en amincissant les légions de son infanterie, afin de l'étendre le plus possible dans la plaine. Puis il distribua la cavalerie sur les ailes. Placé ainsi, il était presque impossible que l'armée fût enveloppée. Mais bientôt, comme si son mauvais génie n'eût voulu lui laisser aucune chance de salut, il changea son plan, resserra ses cohortes, forma un carré profond, faisant face partout, et dont chaque face se composait de 12 cohortes. Entre chaque cohorte était rangée une troupe de cavaliers, de manière que ces cavaliers pussent se porter en avant et que la masse pût s'avancer également, étant également défendue de tous côtés. L'une de ces deux ailes fut confiée à Cassius, l'autre au jeune Crassus. L'impérateur prit le commandement du centre. On se mit en marche ainsi. Par un bonheur inattendu, on arriva, au bout d'une heure, au bord d'un ruisseau que les Romains surent depuis s'appeler le Balissus. Ce ruisseau avait peu d'eau, mais cependant assez pour désaltérer les soldats, qui, succombant à la chaleur et à la fatigue, reprirent un peu de force. Alors les officiers, voulant profiter de cette bonne fortune, si rare dans le désert qu'ils venaient de traverser, firent demander à Crassus s'il ne jugeait pas à propos de s'arrêter là et d'y faire dresser les tentes. Mais Crassus, animé par les exhortations de son fils, qui avait hâte de livrer bataille, fournit seulement une halte d'une heure et ordonna que l'on mangeât debout et sans quitter les rangs. Puis, avant même que le repas fût fini, il ordonna de se remettre en marche, et cela, non point au pas et en s'arrêtant de temps en temps, comme on fait quand on s'avance pour combattre, mais rapidement et tout d'un trait, jusqu'à ce que l'on se trouvât en face de l'ennemi. On l'aperçut enfin, cet ennemi que l'on venait chercher si loin, et que l'on atteignait avec tant de peine. Mais, au premier abord, il était bien moins formidable d'aspect et bien moins nombreux qu'on ne l'avait cru. C'est que le Suréna avait placé des masses épaisses derrière la première ligne et qu'il avait fait voiler l'éclat des armes avec des étoffes et de la peau. Crassus marcha droit à l'ennemi et, arrivé à deux traits de flèche de lui, fit élever le signal du combat. On eût dit que ce signal était donné non seulement aux Romains, mais aussi aux Parthes. À l'instant même, la plaine se remplit d'une clameur terrible et d'un bruissement affreux. Ce bruissement était semblable au tonnerre, et les Romains, habitués aux clairons et aux trompettes, se demandaient quel instrument pouvait le produire. De temps en temps, on eût cru entendre le rugissement de bêtes féroces au milieu des éclats de la foudre. Cet effroyable bruit venait de vases d'airain que l'ennemi frappait avec des marteaux creux couverts de cuir. Car ces barbares, dit Plutarque, ont bien observé que le sens de l'ouïe est celui qui porte le plus aisément le trouble dans la vie, qui émeut le plus vite les passions et qui transporte le plus violemment l'homme hors de lui-même. À ce bruit, les Romains s'arrêtèrent, frappés de stupeur. En même temps, les Parthes, jetant bas les voiles qui couvraient leurs armes, s'étendirent dans la plaine qui parut rouler des vagues de flammes. À leur tête était le Suréna, couvert d'une armure dorée, caracolant sur un cheval aussi éblouissant que s'il eût été détaché du char du soleil. Les Romains comprirent que l'heure était venue d'une lutte acharnée, mortelle. Et cependant, ils étaient loin de se douter à quel ennemi ils avaient affaire. Les Parthes s'avancèrent en poussant de grands cris pour charger les Romains avec leurs piques. Ils étaient tellement nombreux qu'il était inutile de chercher à calculer leur nombre. Ils s'avancèrent jusqu'à 100 pas des soldats de Crassus. Mais lorsqu'ils virent la profondeur des rangs de leurs ennemis, et comment, grâce à ces boucliers soudés les uns aux autres, tous ces hommes ne faisaient qu'une muraille impénétrable, ils rompirent leurs rangs, rebroussèrent le chemin et se dispersèrent. Les Romains ne comprenaient rien à cette retraite. Il était évident qu'ils n'en étaient point débarrassés et que quelque manœuvre s'accomplissait dont ils allaient avoir l'explication. En effet, ils virent bientôt s'élever autour d'eux, à un quart de lieue à peu près, un immense cercle de poussière qui allait toujours se rapprochant et, au milieu de l'espèce de nuée, serpentait comme des éclairs, tandis que les terribles marteaux, toujours retentissant sur les vases de bronze, continuaient de simuler la foudre. Crassus comprit qu'on voulait l'étouffer dans une ceinture de fer. Alors il poussa les vélites en avant, leur ordonnant de briser les anneaux de cette chaîne. On les vit s'élancer, charger, puis revenir en désordre. Quelques-uns reparaissaient avec les bras, les cuisses et même le corps percés par des flèches de 5 pieds de long. Les soldats s'aperçurent avec épouvante que ces flèches avaient traversé les boucliers et les cuirasses. À 300 pas à peu près des Romains, les Parthes s'arrêtèrent. Puis le jour sembla s'obscurcir sous une nuée de flèches. Puis on entendit comme un cri de douleur poussé par 500 poitrines à la fois. C'était la mort qui commençait de frapper et qui entrait dans les rangs romains par de terribles blessures.